que là, j'ai mangé, donc j'ai envie de dormir. J'ai pas l'habitude non plus de parler à autant de monde. Un aéropage assez distingué, des gens qui ont sans doute pas mal d'attentes. Et donc, moi, je présente un module qui est vendre les standards, parce que moi, mon boulot quotidien, c'est de vendre des sites web dans le cadre d'une agence. Cette agence s'appelle Cosmic Communication. C'est une agence de marketing service. C'est une agence généraliste, donc on n'est pas une SS2I ou une agence web. C'est-à-dire qu'on vend de la communication à des entreprises, mais suivant sur différents médias, de médias imprimés, des médias, tous médias, et dont l'Internet. Donc on a commencé à produire des sites web vers les débuts des années 2000-2001. Moi, je ne m'occupais pas de web, et un jour, mon patron m'a dit « t'as une page perso, donc tu vas t'occuper du département web ». C'était pour répondre aux attentes de nos clients, parce que nos clients, c'est principalement des DIRCOM et des directions de marketing, et ils commençaient à entrevoir que le web, fallait y être présent, et un DIRCOM, un DIR marketing, à l'époque, il ne s'adressait pas à une SS2I, il ne s'adressait pas à des boîtes d'informatique et tout ça, parce que c'est des gens qui ne parlent pas leur langage, ils n'avaient pas les contacts, ils ne connaissaient pas, donc l'interlocuteur privilégié, c'était avant tout d'aller vers son agence de com, donc nous en l'occurrence. Donc au départ, c'était des petits besoins, c'était des sites institutionnels, des plaquettes, enfin ou des emails par exemple. Donc c'était vraiment des petits trucs. Donc on est une boîte de taille moyenne. On est à Paris, il y a 30 collaborateurs. Il y en a 4 qui sont vraiment dédiés au développement web. Et par ailleurs, ben, il y a les autres départements traditionnels d'une agence de com. Comme la créa, par exemple. Donc, on a des créatifs qui sont hybrides, qui font tout média, qui sont adaptés au web, qui ont appris sur le tas, comme moi, j'ai appris sur le tas. On a des concepteurs-rédacteurs qui ont appris à intégrer au fur et à mesure les difficultés de l'écriture web, enfin, les difficultés, tout du moins, les différences qu'il y a entre l'écriture web, une écriture pour la radio ou une écriture pour l'imprimé. Et donc, on travaille dans des secteurs d'activité assez variés. Donc, là, je vous ai listé quelques clients, c'est pas pour faire la pub de ma boîte. Donc, là, j'ai listé les clients qui sont importants chez nous, en termes de chiffre d'affaires. Et puis, il y a beaucoup de PME, je les ai pas mis, parce que les PME, les noms, vous les connaissez pas beaucoup, mais bon, on dirait que c'est moitié grand compte et puis moitié PME. Donc, on travaille depuis 10 ans. Généralement, quand on démarre une relation avec un client, on essaie de le garder longtemps. Donc, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on travaille avec des clients comme Renault, CTLM et Rémi Martin. Alors, dans le cadre de notre activité web, on a commencé à réaliser des sites conformes aux standards en 2003. C'était un peu le début. Alors, tout n'était pas conforme. Quelquefois, ça a été des évolutions. Et déjà, mettre un doctype, il y a déjà un progrès. Donc, on y était lentement, on n'a pas fait immédiatement des sites complètement standards. Après, on s'est soucié de renseigner le alt sur une balise image. Ça a été plein de petites progressions qui, à la fin, ont fait un pas de géant. Mais ça n'a pas été du jour au lendemain, on va tout changer, on va tout recommencer à zéro, tout revoir notre process de travail et tout ça. On a été assez progressivement. Et aujourd'hui, donc, dès l'année dernière, en fait, toute notre production est intégralement conforme aux standards. Et je pense pas qu'on va changer, parce que je vois pas pourquoi on irait en arrière, alors qu'on a fait quand même des efforts pour aller vers la qualité. Et puis en plus, on sait plus faire que ça. On aurait du mal à ouvrir Dreamweaver ou Belive pour refaire des mises en page. Alors, la première question qui se pose, c'est comment dans un contexte de production, justement, on arrive à intégrer les standards du web. Pour ma part, c'était d'abord une affaire d'intérêt personnel, de goût du travail bien fait. On aurait pu, jusqu'à aujourd'hui, produire des sites à l'ancienne, en faisant, ceux qui le font quotidiennement savent ce que c'est faire du slicing, c'est-à-dire utiliser un logiciel comme GoLive, par exemple, avoir des visuels qu'on peut faire dans Photoshop, puis les découper pour l'intégrer dans une table. Il y a encore des sites qui sortent comme ça. Faut pas se cacher. Et donc, avec un code bien lourd, enfin, encombré de balises inutiles, ou alors faire des sites tout en flash, qui sont conçus comme des CD-ROM interactifs des années 90, hein, c'est une technologie très nouvelle, flash.
CD-Rector, Flash, on a porté ça sur le web, et puis on a porté ça avec les mêmes créations, avec les mêmes ergonomies, et tout ça. On pourrait faire ça, et on vivra encore bien. C'est-à-dire que j'aurai toujours ma business unit, mon centre de profit web à l'intérieur de l'agence cosmique, il vivrait toujours bien en faisant ça. On peut toujours vendre de la merde. Mais par intérêt professionnel, voilà, je suivais la qualité du web, des technologies, tout ça. Je lisais des gens qui en parlaient. Alors, des sites plutôt nord-américains qui parlaient de design, qui sont passés au design web. Et puis, ces sites ont commencé vers 2002, 2003 à beaucoup parler de standards du web. J'y connaissais rien. Pour moi, c'est une notion assez abstraite. Et puis après, il y a eu les blogs. C'est-à-dire des gens qui avaient une notoriété. Bon, j'ai été cité. Il y a Tristan Nitto. Il y a Denis Boudreau, il y a Carl Dubos. C'est des gens qui donc parlaient de technologie web et faisaient à l'époque, un peu de la propagande positive mais montraient que, avec des moyens simples, on pouvait aller vers des sites plus efficaces, des sites plus pérennes, plein de petites techniques, tout ça. Notamment, Denis qui était vraiment dans le pratique avec des exemples très concrets de code et tout ça, de ce qu'on pouvait faire mieux. Et donc, comme tout professionnel, m'intéressant à ce que je faisais, ben forcément je suivais ça et j'avais envie d'aller parce que je sentais bien que c'était le progrès. Donc c'était avant tout une démarche personnelle, une démarche de goût, une démarche de se passionner pour ce qu'on fait, de se passionner pour le web, de se passionner pour la production web et se dire ben on va essayer de faire la meilleure qualité possible. Parce que souvent quand on est passionné, on a envie de faire de la qualité, quoi. On a envie de faire de la merde tous les jours. Si on est boulanger, on a envie de faire du pain chaque jour meilleur et donc d'apprendre tout ça. Je suis content de faire du pain de merde, mais voilà, on n'a pas le même plaisir dans le boulot. Donc le plaisir du boulot, c'est aussi de faire du travail de qualité. Alors, faut pas tomber non plus dans la surqualité et d'en faire trop, parce que aussi dans le boulot, il y a une notion de rentabilité. Donc, à un moment, faut dire stop. Mais je sentais aussi qu'en opérant ces nouvelles façons de voir le travail, ces nouveaux process, on pouvait, alors peut-être que les démarches sont difficiles, mais on pourrait aussi faire des économies à terme. Et ça, c'est un paramètre aussi important. Alors, comme je suis pas habitué à faire des présentations, là, je me préférerais mes précédents qui ont fait tout ça sans repère, tout ça, donc on a fait un truc mais qui est trop rédigé en fait, donc j'ai du mal à me retrouver dans mon texte. Alors, slide suivant. Tout se passe bien. Donc, en fait, je vous ai déjà dit ce que j'ai écrit, je suis très emmerdé là. Et déjà, il faut que je me détende, hein, donc ça va être plus fluide. Alors oui, donc j'ai parlé de mon côté passion pour le travail et dans le cadre professionnel, il y avait personne qui m'obligeait à lire le stand blog ou à remettre en cause mes méthodes de travail. Donc c'est toujours et dans les autres entreprises, alors des confrères ou des clients où j'ai vu un souci de, où il y avait un intérêt et une démarche qualité, c'est parce que il y avait une personne qui une fois qu'elle avait terminé son travail, ben, elle y pensait encore, elle allait s'enseigner, elle allait sur le site web, elle allait sur le site web, sur le référence, sur le sujet. Donc, c'est souvent une affaire de personnes qui animent, qui motivent, qui poussent les choses pour des raisons passion personnelle, parce que généralement, dans une boîte, plus elle est grosse, plus on va vers le bas et plus on va vers la paresse. Et j'admire les gens qui essaient justement d'agiter dans les grandes sociétés, parce que c'est encore plus difficile. Il y a une lourdeur, une inertie qui est assez forte. Alors, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un tournant technologique, parce que les besoins des clients ont évolué. Déjà, nos clients sont plus éduqués. Ensuite, il y a l'environnement qui change. Et le fait d'être enfin une agence qui maîtrise les standards, parce que je vous le rappelle, on ne produit plus que des sites standards, est devenu aussi pour nous un avantage concurrentiel. Donc un choix qui n'était pas forcément évident en 2003, aujourd'hui ben, c'était le bon choix. Parce que au standard, on se dit pas du jour au lendemain, je vais devenir une agence qui fait des sites très beaux, très propres. Ça peut pas se faire du jour au lendemain. Pour nous, c'était un process qui était très simple, je vous l'ai dit, par étapes. Donc ce choix que j'ai fait en 2003, finalement, c'est un bon choix. Parce que aujourd'hui, si on avait pas choisi cette orientation il y a 3 ans, il y a notre activité qui commence à être menacée. Parce que sur le marché, il y a des nouveaux acteurs, des petits acteurs qui arrivent, qui maîtrisent ça. Et puis là, je sens vraiment que tout le monde s'y met, quoi. Même les gros acteurs, alors c'est pas encore parfait, c'est pas l'essentiel de leur production, mais ils s'y mettent tous, et vous allez voir dans n'importe quelle grosse web agency, c'est clair, ils disent tous qu'ils produisent des sites conformes aux standards, accessibles et tout ça. Alors, entre le discours et la réalité, vous faites une marge. Mais tout le monde s'y met, tout le monde est sensibilisé, c'est vraiment devenu le sujet. Et je pense que là, vraiment, en 2006, au niveau des producteurs de sites web, on vit vraiment un tournant qui est important. Là, c'est un slide, c'est ce qu'on faisait avant. Hein. Donc, ça vient de chez nous. Hein. J'aurais pas pris un site de confrères pour le Dimitri. Donc, c'est ce qu'on faisait en 2003. Donc, c'est ce que je vous illustrais, le slide-sign. Donc, on découpe des images. Voilà, c'est un gros merdier. Là, on a un morceau de code. On voit à quoi ça ressemble. Donc, ça, on l'a fait. Et là, ça, on le fait encore parce que ces sites-là, quelquefois, on les a encore en portefeuille. Ils n'ont pas été refondus, le client n'a pas demandé une refonte. C'est assez difficile, 3 ans après, d'aller voir un client et de dire, Coco, on t'a vendu de la merde, aujourd'hui, il faut que tu remettes, que tu craches au bassinet, on va te refaire ton site, il va être beaucoup mieux, il va être conforme au standard, c'est délicat commercialement. Quelquefois, on le fait sans lui dire. Pour des sites qu'on met très souvent à jour, nous, c'est un cauchemar, hein, quand on doit revenir là-dessus, c'est vraiment pénible pour nous à travailler. Et on a moi, j'ai des développeurs qui sont très standards et tout ça, qui ont le l'ouvrage et tout ça. Quand ils travaillent là-dessus, ils ont l'air malheureux, quoi. Moi, j'ai besoin de développeurs qui ont le poil brillant et qui ont l'œil vif. Hein. Mais là, je fais travailler sur Régional, filiale d'Air France, un développeur pendant 6 jours. Il va me poser sa démission, il va aller voir. Alors, il va falloir que je l'augmente, mais ça va être dur. Alors, c'est ce que je disais. Donc, pour moi, dans le métier, je perçois vraiment 2006 comme l'arrivée d'une certaine maturité. Alors, nous, en tant qu'entreprise cosmique, on est encore un peu en avance, mais et c'est tant mieux pour nous. Mais je vois que vraiment, les standards, ça devient la norme de production de plus en plus. Et tant mieux pour les standards. Pour nous, ce sera un peu plus difficile, on sera plus les seuls, mais bon, on n'est déjà pas les seuls. Faut bien être conscient qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de sites qui sortent conformes, propres et bien programmés. Parce qu'il faut changer aussi que les métiers du web, c'est des métiers très récents. L'histoire du web, c'est pas grand-chose. Hein. L'histoire du web, c'est une dizaine d'années, on va dire. C'est un média tout neuf, donc il y a eu pas mal d'expériences, beaucoup de n'importe quoi. Et maintenant, il y a une maturité dans le marché et les standards nous permettent aussi de dégager des process de production plus encadrés avec par exemple le contrôle qualité, ce que ne permettait pas les bidouillages avant, parce que ça c'est pas il y a plus Régional, mais c'était pas de la qualité, hein, c'était vraiment du bidouillage, et c'était du bidouillage. Et les éditeurs de logiciels comme Dreamweaver et GoLive qui nous encourageaient aussi à ça. Parce qu'on nous créait des outils, c'était tellement facile de faire de la merde qu'on les utilisait. Hein. C'est aussi simple que ça. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on vit dans la profession un peu le... Alors, j'en parle parce que je l'ai vécu, parce qu'avant, je travaillais dans l'imprimé. On vit un peu ce qui s'est passé avec l'avènement de la PAO. Et les gens qui faisaient de la photocomposition qui a disparu très vite. Et chez les photocomposeurs, il y en a qui n'ont pas su négocier le tournant technologique, parce qu'il y en avait un qui était quand même important, comme le passage de la conception traditionnelle et ancienne au standard. Il y a un tournant technologique qui n'est pas forcément facile d'ailleurs pour les équipes au niveau de la formation. Et puis il y a des gens qui n'ont pas anticipé, et puis pire, il y en a qui ont méprisé les nouvelles technologies. Et ça existe aussi pour les sites conformes. C'est-à-dire qu'il y a des gens ils sont ancrés dans leur schéma, et donc le site sera toujours fabriqué de la même façon, et la discussion n'est pas possible. Quoi. Ils sont vraiment ferrés là-dedans. Mais ces gens-là, ils vont disparaître du marché, ils vont disparaître assez vite. Donc, vendre les standards, donc c'est le sujet qui m'était attribué. Alors, quand je l'ai eu, j'étais un peu interloqué. Parce que au quotidien, en fait, je vends pas les standards. Vendre les standards tout seul, ça veut pas dire grand-chose. Parce que déjà, si on est strict au sens du standard, on peut faire des sites très laids, des sites illisibles et sans ergonomie, sans aucune accessibilité, tout en ayant un code XHTML et CSS, c'est parfaitement valide. Hein. Le respect des standards, il se conçoit que dans le cadre d'une démarche qualité, et c'est ce qu'on appelle les bonnes pratiques du web. Mais avec les standards, on peut faire de la merde aussi. compliquera un peu la vie par rapport à la merde d'avant, mais on peut vraiment faire n'importe quoi. Et le code, il passera tous les validateurs et tout ça, il sera conforme. Mais les standards, c'est l'assise, c'est les briques, enfin, c'est les fondations d'un site web correct. Il ne suffit pas, ça doit s'inscrire vraiment dans une démarche qualité globale. Donc, par exemple, il ne faut pas s'arrêter à la qualité de la programmation. Un site web avec des textes incompréhensibles et truffés de fautes de français, c'est pas acceptable. Le travail de rédaction d'un site, il fait partie de la qualité web, au même titre que le respect de la syntaxe HTML. Donc, moi, je ne vends pas des standards, je vends à mes clients une démarche qualité, qui sont globalement les bonnes pratiques du web, dont les standards sont une partie, certes essentielle, mais pas suffisante. Les standards sont à la conception du site web, ce que sont l'orthographe, la grammaire, le style, au travail d'un concepteur rédacteur. C'est grammaire, orthographe, donc la syntaxe et tout ça, et puis le style aussi, ça compte, parce qu'on peut être toujours valide, mais par exemple une feuille de style CSS écrit avec style élégance et un peu structuré, ce sera plus facile à partager entre développeurs, ce sera peut-être plus efficace à déboguer, etc. En plus, j'ai une bonne raison de ne pas vendre les standards, c'est que mes clients, ils s'en foutent. Ça leur parle pas, les standards. Et donc, pour savoir pourquoi ça leur parle pas, je vais vous parler de mes clients qui sont quand même les principaux acheteurs web sur le marché. Alors, le premier acheteur en entreprise de site web, c'est la direction de la communication et direction du marketing. C'est normal parce que les fonctions... Le site web, c'est une représentation de l'entreprise, donc c'est la fonction com. Et puis souvent, il y a une fonction commerciale. Alors au minimum, ce sera un discours marketing, tout ça, ou alors ce sera carrément la vente directe. Donc c'est deux fonctions qui sont principalement intéressées par le rôle et la finalité du site web. Donc c'est souvent elles qui sont donneurs d'ordre, qui initient la création, initiées parce que toutes les boîtes ont des sites web, sauf les nouvelles. Mais c'est elles qui pilotent les projets web. Donc c'est nos premiers clients, c'est des clients auxquels les standards web, ça veut pas dire grand-chose. En deuxième lieu, deuxième type d'acheteur, alors je les ai mis par ordre d'importance. J'ai le troisième, c'est pas grave. Le deuxième, c'est le chef d'entreprise, c'est surtout dans le cadre des PME, donc on va dire entreprise de moins de 50 personnes, souvent le décisionnaire pour le site web, c'est carrément le chef d'entreprise. Pareil, les standards, ça ne lui dit pas grand-chose. Troisième cas, alors c'est les directions informatiques qui sont conviées à participer au processus initié par la com ou le marketing. Là, il faut être franc, c'est le début des emmerdes, parce que les gens du marketing et les gens de l'informatique, ils parlent pas le même langage. S'ils peuvent pousser le projet dans des directions opposées, ils le feront. Sans compter le cas désespéré où alors il y a la direction informatique qui est pas heureuse de voir débarquer des intervenants extérieurs, le cas où on assiste à des luttes homériques entre services, alors on se tire la couverture à soi, non, le projet web il est à moi, non, il est à toi, c'est moi qui ai plus d'importance, c'est moi qui décide sur tel point, etc. Donc, des fois ça se passe bien, il y a des gens intelligents dans les entreprises, mais bon, ça devient délicat. Et enfin, il y a le quatrième cas qui est vraiment très très rare, de plus en plus rare, c'est la direction des services informatiques. Alors là, ces gens, on peut leur parler technique, ils ont un bagage technologique, mais le problème dans les grandes entreprises, c'est souvent que le bagage, il est pas des plus récents. Quand vous rencontrez des développeurs COBOL en 2006, vous dites, ouais, d'accord. Et puis les DSI, il ne faut pas se cacher, c'est parfois des baronnies où on s'échine à ce que les choses changent, mais pas trop vite. Il ne faut pas trop se remettre en question, il faut rester dans son petit confort. Et puis il y a aussi, ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de génération informatique avant, ils ont souvent des systèmes, des lourds systèmes propriétaires, qu'on doit s'y intégrer et se coller dessus, c'est pas forcément évident, et les modifier, les faire évoluer, encore moins. Donc les standards, eux, ils savent ce que c'est, enfin, ils en ont une idée plus précise qu'un directeur de la com qui vous regardera avec des yeux ronds, il dirait, les standards, ouais, d'accord, what's next? Mais le directeur de DSI ou chef de projet informatique, vous pouvez lui parler de standard. Et pour lui, c'est synonyme de difficulté, de remise en cause, limite de danger s'il fait rentrer ça dans sa maison. Et puis les cycles de décision sont souvent très très longs. Je caricature à peine. D'ailleurs, si je vais caricaturer parce que j'aime bien. Donc ça, c'est un email. Je vous donne la date, hein, il a qu'un nom. Excusez-moi. Hop. 2005. Donc, je vais le lire, hein, pour les gens qui savent pas lire. Donc, sur toutes ces pages, c'est l'entité HTML RSCO, doivent être remplacées par des apostrophes simples, car ce code caractère n'est pas compris par Netscape 4.x. Pour rappel, c'est le navigateur historique et officiel de xxx.net, donc c'est un intranet. Il reste majoritairement utilisé, 80% des utilisateurs, conjointement à Internet Explorer, 20%. Des parts de marché comme ça, vous les voyez pas dans vos statistiques. Les exigences de compatibilité avec les différents navigateurs sont résumées dans le document de préconisation et contraintes techniques pour les publications xxx. Alors bon, c'était des vieux fichiers d'intranet qu'on n'avait pas très surveillé depuis 2001. Fallait les éditer, les mettre à jour et les renvoyer chez le client. Et mon développeur, je sais pas ce qu'il lui a appris, il s'est dit « Oh, ce serait plus joli si on avait des beaux apostrophes typographiques. » On s'est repris le travail dans la gueule. Donc ça fait mal, ça. Mais bon, c'est des cas rares. Hein. Mais bon, je vous dirai pas qui vient chez Message, parce que c'est un gros client de l'agence. Enfin, on fait plus du web avec eux, on fait du print. Mais bon, c'est juste pour vous dire, hein, c'est une entreprise qui est présente dans 118 pays, alors une entreprise française, qui a 126 000 collaborateurs, qui est au quatrième rang mondial de son domaine d'activité, et qui fait 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour mémoire, Netscape 4, c'est 1997, 4.5, c'est 1998. Qui ne dit non consent, on dit. Alors, revenons à nos principaux clients. Donc. Oui, donc c'est un cas rare, hein, lequel je vous ai présenté, mais bon, ça existe encore. Et plus dans les très très grosses entreprises qui ont plus de lourdeur de fonctionnement que dans des entreprises plus modestes. Donc nos principaux clients, c'est les directions de communication marketing. Et donc, ce que je vous disais, c'est que les standards, ça leur cause pas vraiment. Donc, ils nous font confiance, en fait, pour les choix technologie. Et nous avons un discours commercial qui est destiné à les rassurer sur ce plan. Donc, les fameuses bonnes pratiques, on leur expose, mais on va pas s'éterniser non plus là-dessus. C'est-à-dire qu'on leur donne la garantie que vraiment, on va leur faire du bon boulot. Et comme on le dit avec beaucoup de cœur et de poigne, ils nous croient. Enfin, ils ont raison de nous croire, nous, en tout cas. C'est ça qui est important. Donc, nous, on va pas les faire chier avec de la technique, et on va pouvoir se concentrer sur le cœur de leur problématique, c'est-à-dire parler d'image de marque, de promotion des ventes, de résultats d'objectifs commerciaux, etc., etc. C'est-à-dire parler le langage du client et bien comprendre ses intérêts. Et en plus, c'est ce qu'il attend de nous, quoi. Si on commence à lui parler de XHTML 1, strict ou transitionnel, non, lui, c'est pas ce qui l'intéresse, hein. Il veut vendre sa soupe. Alors, donc, il faut pas vendre les standards en tant que tels. Quand on est face à ce type de client, qui est quand même le principal acheteur de site, il faut vendre les bénéfices induits par les bonnes pratiques. Par exemple, si vous lui expliquez que son site sera bien indexé dans des moteurs de recherche, bah, votre interlocuteur, il vous écoute, il est intéressé. Le XHTML 1.0 strict, ça l'intéresse pas, quoi. Lui, ce qu'il veut, c'est des résultats, et des résultats tangibles, etc. Bon, alors, on a parlé beaucoup d'accessibilité ce matin, j'en parlerai pas beaucoup. L'accessibilité, bon, bien sûr, quand on fait un beau site en XHTML avec du XHTML un peu structuré et des CSS propres, un site valide, c'est déjà un site qui est beaucoup plus accessible, il n'est pas parfaitement accessible, hein, mais bon, déjà, il est au moins un minimum accessible. Donc, c'est un bénéfice induit, l'accessibilité. Généralement, quand j'en parle à des clients, en plus, votre site, un aveugle pourra y accéder et pourra lire les contenus. Généralement, j'ai un silence poli. Sans faire de cynisme, c'est souvent le cas, ça les intéresse pas. Aveugle, c'est quoi? 0,02% de part de marché. Bon, séance polie, on passe au sujet suivant. Ceci dit, on leur fournit des sites accessibles aux aveugles, qu'ils le veuillent ou pas. Donc voilà. Mais c'est pas vraiment un argument de vente encore. Il y a encore peu de sociétés qui sont sensibilisées à ces questions-là. Il y a des grands groupes, quelquefois, je pense dans le bancaire, pas tous. Il y a les collectivités locales, il y a les collectivités territoriales, il y a les sites gouvernementaux, etc. Parce qu'ils ont des obligations légales. Et encore, ils sont sensibilisés à la question, mais comme ils savent pas trop ce que c'est que l'accessibilité, ils peuvent aussi se faire vendre n'importe quoi. J'ai déjà eu des compétitions, on était contre d'autres agences, ils ont pris le moins 10 ans, le moins cher. qui leur avait promis un site accessible. On va voir 3 mois après ce qui a été mis en ligne. Ça n'a strictement rien d'accessible, c'est un cauchemar. Parce que c'est pas tout d'avoir des obligations légales, donc le bâton. S'il n'y a pas de contrôle a posteriori, on peut vendre n'importe quoi. Hein. Donc ça, il y a encore beaucoup de progrès à faire sur le sujet. Et parler à un jeune chef de produit chez Loré, non, chez n'importe quelle société, d'accessibilité aux aveugles, bon, l'aveugle, il achète du shampoing, hein, il a les cheveux propres aussi, mais bon, voilà, ça ne les intéresse pas, c'est clair. Il ne faut pas insister sur le sujet pour vendre son site web, en tout cas, vu que c'est le sujet de mon intervention. Depuis, on déborde sur un sujet de société qui est un peu plus large que de la qualité web. Alors, 9 fois sur 10, donc nos clients ne savent même pas qu'ils ont un site conforme aux standards. Donc, ils sont persuadés d'avoir un site très bien fait, parce qu'on leur a expliqué, mais bon, ils ont oublié les détails. Parce qu'on leur a dit ce qu'on a fait, tout ça, mais bon, voilà, les détails pour eux, c'est pas super important, surtout les détails techniques. Et encore une fois, ils nous font confiance pour les aspects qui ne sont pas au cœur de leurs problématiques et qui sont, encore une fois, des questions de communication et de discours commercial. Alors, quand le site est premier sur Google sur un mot-clé concurrentiel, là, ils sont très contents. Vraiment, votre client est très heureux, mais ils se fichent de savoir pourquoi. C'est vraiment. Alors, vous lui expliquez s'il a un peu de curiosité, mais généralement, il n'enregistrera pas. Il a besoin de résultats tangibles, quoi. Mon site est premier sur un mot-clé concurrentiel chez Google. Donc, en fait, on fait le choix des standards pour eux. Et en plus, comme j'avais dit au préalable, c'est pas vraiment un choix parce qu'on sait faire que ça. Parce que c'est là qu'est notre plaisir. Donc, on leur fout du standard. Ils ont des sites beaux et propres, mais 9 sur 10, ils savent pas. Ils savent pas. Ils ont, pourquoi le savoir, finalement? Il faut qu'ils soient convaincus qu'ils ont un bon site. Et après, ce qu'ils vont mesurer, c'est les retombées du site. C'est ça qui les intéresse. Savoir qu'il est conforme aux standards, ça les intéresse pas. Ça, c'est un peu notre cuisine interne. Et c'est aussi notre exigence professionnelle de faire du travail de qualité. Alors, je suis là aussi pour faire un peu la promo de mon agence. Mais pas seulement. C'est vous montrer aussi que dans la vraie vie, il y a des sites, alors des gros, des petits et tout ça, qui sont vraiment standards. Alors, on n'est pas sur Internet, j'aurais pu vous présenter Vivant, comme un problème d'Internet. Donc, je vais vous montrer des copies d'écran, c'est un peu moins triste quand il y a des animations flash, par exemple. Donc, je vais vous montrer des cas concrets. Donc, ça, c'est un site pour Bourbon. Alors, Bourbon, c'est un gros groupe qui n'est pas très connu dans le grand public. Qui s'occupe de services maritimes. Ils ont 3 divisions, une division offshore, donc c'est des bateaux comme celui-là qu'on voit, qui sont des bateaux d'assistance aux plateformes offshore, donc ils louent leurs services de logistique. Ils ont une division remorquage et sauvetage, qui est un peu plus connue parce qu'ils ont les gros bateaux qui vont sauver les pétroliers dans la Manche, etc., qui sont les abeilles. Et ils ont une division vrac avec des cargos. Donc grosse boîte, côté en bourse et tout ça. Là, pareil, notre interlocuteur, c'est directrice du marketing. Elle n'en sait rien que son site est standard. Il est accessible. Il y a très peu d'images. Hein. La navigation en haut, c'est du vrai texte. Hein. C'est pas des images comme ça. Par contre, on a du condescendre. Ce que vous voyez là, au milieu, le grand visuel, ben, c'est une animation flash. Il y a une succession de messages, tout ça. Des moments où on se bat avec le client, puis il y a des moments où il faut être pragmatique. On ne va pas y passer un siècle. On met son animation flash. De toute façon, elle est plus décorative qu'autre chose, elle n'est pas énormément porteuse de sens. Il ne fallait pas m'entendre dire ça, mais c'est le cas. Donc voilà, on lui a fait son animation flash, alourdit la page. Alors en plus, dans son cahier des charges, ils ont plein de gens en Afrique de l'Ouest et au Brésil. Ils voulaient que ce soit vraiment bien accessible aux gens en RTC ou avec des connexions assez faibles. Et il y a un flash qui fait 283 kg. OK. Mais bon, il y a un moment où il faut arrêter de se battre. Donc ça, c'est un gros site corpo, assez classique. Là, c'est une page intérieure, un accueil de rubriques, beaucoup d'informations financières. C'est pas très passionnant. C'est un site qui est très très souvent mis à jour, 3 fois par semaine. Beaucoup de données qui changent. Il y a un gros corpus. Hein, il doit y avoir 300 pages en français et l'équivalent en anglais. Voilà, donc ça, c'est Bourbon. Et derrière, pour les curieux, on a utilisé Spip. N'applaudissez pas trop Spip. Pour nous, c'est pas le CMS parfait, mais c'est pas le sujet de mon intervention. Donc ça, pour rester dans le domaine maritime, c'est un site de PME, donc c'est une PME du Finistère qui fait du positionnement acoustique et géométrique de chaluts. C'est très technique. Eux, pareil, et ils ont aucune. Oh là là, ça passe vite. Ils ont aucune notion que leur site est accessible.
Donc j'allais vite. Là, c'est pour vous montrer qu'on peut faire quand même des sites graphiques sympas et tout ça, et un peu vivant en CSS. Donc là, c'est les chaussures Hero. Et donc l'avantage de CSS, c'est qu'on peut très facilement changer, sans toucher au code ou très peu, changer les ambiances graphiques suivantes. Donc là, c'est la collection automne-hiver. Donc site, le code est standard, CSS, complètement dissocié, bien sûr, l'aspect graphique. Moins d'attention à l'accessibilité, parce que je pense pas que c'est un site qui intéresse beaucoup les malvoyants, par exemple, parce que voir des photos de chaussures, c'est pas... c'est assez difficile à traduire, on va pas écrire un laïus pour décrire les chaussures. Enfin bon, on peut faire des trucs assez graphiques quand même, pour des entreprises. Ça, c'est un autre exemple que je passe rapidement. C'est une partie de Paris.fr, c'est la, celle qui est la mieux développée, parce que c'est celle qu'on a fait. Donc, pareil. Là, encore un petit site. Derrière, il y a Plume. Par exemple, Plume, c'est pour les petits sites, on utilise pas mal. C'est un joli noyau. Donc, un site pour une clinique à Lorient. Pareil, hein, là, on a un gros flash. C'est que de la photo, c'est pas très grave. Là, encore une PME, pareil. Alors là, il n'y a pas de flash. Le menu, tout ça, c'est du CSS. Alors là, c'est un site qu'on vient de livrer, donc derrière il y a Drupal, et donc là on va décliner toutes les publications de VNU, donc on a commencé par SVM Mac. Comme souvent dans notre activité, les délais sont courts, tout ça, donc on l'a fait un peu en rush parce qu'on devait absolument sortir pour, donc il n'est pas terminé encore pour Apple Expo le 12 septembre dernier. Et là c'est un bel exemple, c'est CTLM. CTLM c'est une grosse boîte, donc qui vend du crédit comme pas mal de gens le savent. C'était la première grosse entreprise, le gros site d'entreprise, en plus un site marchand, un site qui vend, qui est passé au standard du web il y a un peu plus de 2 ans, ou 2 ans, je ne sais pas. C'est le premier en France, à l'exception de François qui nous a grillé la politesse en sortant le site de Capgemini, genre 3 semaines avant, le traître. Il y a une blague privée là. Et donc, mais là, ce qui a déclenché ça, c'est qu'il y avait vraiment, il y a une personne au sein que certains connaissent peut-être, qui est Charles Népote au sein de CTLM, qui a vraiment poussé dans cette direction. Ça, donc, c'était le premier gros site commercial français, qui passait intégralement au standard. Et pour eux, il y a vraiment une logique économique. Hein, c'est pas des, ils sont vraiment dans le pragmatisme et tout ça. Ils sont passés au standard, c'est qu'ils avaient vraiment des intérêts. Et donc, ce site-là, un site bien programmé. Donc, ce qui s'est passé il y a 3 mois, c'est qu'ils ont changé d'image et de logo. Donc, ce que je vous présente, c'est une vieille version. Donc, ça ne fait pas toujours l'affaire des agences, les standards, parce que ce qui dit changement d'image, changement de logo, on était en traditionnel, on leur livrait tout le site, on leur facturait un certain montant et tout ça. Là, pour le changement d'image du CTLM, on leur a livré seulement 2 fichiers. On leur a envoyé un fichier CSS et on leur a envoyé une nouvelle homepage, parce qu'il y avait quand même des restructurations de contenu et d'offres commerciales. Mais tout le reste du site, c'était la CSS, hein, même le changement de logo, c'était dans la CSS et tout ça. Donc là, on n'a pas vraiment gagné notre blé là-dessus. Donc là, c'est le nouveau site, et on a livré que 2 fichiers, ça a été fait en 3-4 jours, on va dire. Donc voilà, les CSS, c'est pas toujours super intéressant de notre côté. Voilà, donc je suis dans les temps.
Allô, ouais, c'est bon. J'ai vu une main se lever par là. Adrien qui arrive de l'autre côté. Je vais m'éloigner du haut-parleur. Micro orange, Julien.
Orange.
Ici, mais François Nonnen, ma chère, le traître. Quand tu dis que les standards sont devenus le bonne pratique de la profession en 2006, est-ce que tu es vraiment sûr de ça? Et est-ce que c'est pas, en fait, simplement le cas de petites agences un peu plus agiles par rapport aux grosses? Parce que moi, je suis pas tout à fait sûr que ça soit encore en 2006 la bonne pratique de la profession.
J'ai peut-être une vision faussée, en fait, du marché, parce que nous, ça fait 3 ans qu'on fait des standards, donc il y a un rabâchage, tu vois, et tout ça. j'ai l'impression de vivre que là-dedans. Je rencontre des confrères, c'est des confrères qui font la même chose que moi. Donc peut-être que je vis dans une petite bulle et je vois pas. Enfin, si je vois des films qui sortent, qui sont vraiment pas un peu pitoyables. Mais peut-être que j'ai vu effectivement une vision déformée. Mais néanmoins, je capte partout des signaux qui me font dire que les gens y passent. Et je le capte dans les compétitions avec d'autres agences, souvent des plus grosses agences que nous. Et là, je le capte parce que ça s'est instillé dans leur discours commercial. Alors après qu'il y ait une réalité des faits entre le discours commercial et le groupe de la réalisation, parfois il y a une marge. Mais je sens que tout le monde est dessus, tu vois. Ce sera imparable. En plus, les clients sont plus éduqués aujourd'hui. Ils ont plus de. Il y en a, ils ne savent pas exactement ce que ça recouvre, mais il y a une demande qui s'exprime. Donc, je sens les signaux du changement. Alors, je dis, tout n'a pas changé en 2006, mais je sens qu'on est au point virage, au point où les choses vont tourner.
J'ai juste une petite question subsidiaire. Est-ce que tu peux, si ce n'est pas un secret industriel, nous dire brièvement comment s'est passée la transformation avec les métiers que vous avez, je pense aux gens qui font de la créa graphique sur Photoshop, jusqu'à la livraison du XHTML CSS. Il a fallu faire quoi pour changer ce process-là de production ?
Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour personne, en fait, parce que c'était pas facile à nos directeurs artistiques de s'adapter. Déjà d'apprendre un autre mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'en fonctionnement imprimé, on passe d'une case à l'autre, et c'est un truc qui est assez linéaire. On a le côté commercial, concepteur, rédacteur, direction artistique, studio, et exécution, fabrication. Donc il y a un truc qui est très linéaire. Pour faire un site web, c'est indispensable de revoir ce style de fonctionnement, c'est-à-dire que dès l'amont, dès la création, on doit avoir l'équipe web, on doit avoir le commercial qui va représenter en interne la demande client, on doit avoir tout le monde, les créas et tout ça, et tout le monde doit travailler ensemble dès le départ si on veut faire un projet qui tient la route. Donc ça a changé une logique dans notre métier, et quelquefois ça a eu d'ailleurs une influence, notre fonctionnement sur notre média. Peut-être moins linéaire, moins passer d'une case à l'autre, d'un département à l'autre, on travaillait plus en groupe. Et ça n'a pas été facile pour tout le monde. Mais même pour les développeurs, hein, parce que le gros problème de passer aujourd'hui au standard en agence, c'est aussi d'avoir des équipes de développeurs compétentes. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation qui prépare à ça. Quand je passe une annonce à l'ANPE pour recruter des intégrateurs, je ne le referai pas. On est inondé, on a 400 candidatures, mais des gens, c'est le bagage technologique à 10 ans. Et les gens qui savent les standards, ils n'ont pas appris l'école, c'est qu'ils se passionnent. Ils ont un blog, un site perso, qu'ils animent une communauté, un forum, tout ça, qu'ils développent, qu'ils s'intéressent. Et certains sont là, ouais. Donc, ça. J'ai pas de poste disponible, mais je prends les CV. Donc, oui, ça, c'est un gros souci pour la production. Et c'est vrai que ceux qui sont dans les. Il va falloir faire de la formation, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'organisme de formation qui propose ces formations. Donc, c'est forcément la formation en interne. Donc, à une petite structure comme la mienne, on n'a pas forcément le temps de faire ces formations. Donc, c'est trouver de nouveaux gens. Et ces gens, tous mes recrutements, ça a été plutôt long. J'ai rarement mis un ou deux mois pour trouver la
formation. Moi, j'aurais une petite question. Je vais profiter de présider pour la poser. commercialement, qu'est-ce que ça implique en termes de coûts ? Qu'est-ce que vous vendez aux clients ? Je veux dire, à la louche, est-ce que tu leur vends 140% plus cher que la concurrence en leur disant que c'est mieux ? Parce que je connais des gens avec qui je travaille qui souvent sont perçus par leurs clients comme plus chers parce qu'ils ont un taux horaire qui est plus important, mais qui livrent en moitié moins de temps, qui au final, grosso modo, revient au même que les autres. Et les clients leur disent, mais attendez, si vous me coûtez deux fois plus cher à l'heure, je prends vos concurrents. Et en réalité, la qualité de produit fini n'est pas du tout la même. Donc, comment vous vendez ça ? Sur quelle base de chiffrage à la louche, quoi ?
Maintenant, dans la pratique, il n'y a pas de grosse différence de chiffrage dans ce qu'on faisait avant et dans ce qu'on fait aujourd'hui. C'est clair que quand on était en période d'apprentissage, où on explorait un peu, on n'avait pas de process tout fait, on passait plus de temps et donc on facturait moins aux clients que le temps qu'on passait sur leur dossier. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ceci dit, la décomposition des postes chronologiquement dans le dossier n'est plus la même. C'est-à-dire que c'est clair qu'on a beaucoup plus de temps au démarrage du dossier. C'est-à-dire que prototyper le site, créer au départ, c'est plus long.
Après, pour tomber les pages, quand on en a 300, c'est plus rapide. Et puis en plus, maintenant, on fait presque tous les sites avec un CMS, ce qu'on ne faisait pas forcément il y a 3 ou 4 ans. Donc maintenant, on gagne sur la production brute. Mais les démarrages sont plus lents. Ce qui fait que, par exemple, quand on est en compétition et qu'on présente des maquettes, hein, quand on va voir un nouveau client et qu'on a 5 autres agences à côté de nous, on fait une maquette. Si possible à l'écran, ces maquettes-là, ben, on les fait en slicing. On ne va pas s'amuser à faire ça en CSS et tout ça, tout beau. C'est pour montrer à l'écran que je l'ai présenté sur un rétroprojecteur, on montre que ça bouge et tout ça. Ils ne vont pas voir le code qu'il y a derrière, on garde les trucs, on leur laisse les sorties papier, etc. Donc, quand on a besoin d'aller très rapidement, c'est clair que ce n'est pas réussi à ça. Pour revenir au coût, aujourd'hui, on gagne sur les sites qu'on entretient et qu'on va garder longtemps. C'est clair que pour la maintenance, on facture pareil qu'avant et on y passe moins de temps. Mais c'est à la création du site que c'est un peu l'inverse. Mais globalement, les budgets sont les mêmes.
Alors, Christophe Montigny, j'ai pu travailler au Cérimès, c'est mon tour de l'été. Je voulais vous dire tout à l'heure que les directeurs de communication, etc., ça ne les intéressait pas de savoir comment c'était fait, tout ça, le standard, c'est pas leur truc. Et au niveau des contributeurs des sites, parce que j'imagine que vous travaillez avec des CMS, comme vous avez dit, que s'ils ne sont pas formés, comment vous arrivez à continuer à avoir un site web qui soit standard, parce qu'on peut faire n'importe quelle connerie dans
Ça, c'est une grosse difficulté. C'est une difficulté qui est plus propre au CMS, qui permet avec l'utilisateur lambda, de faire tout et n'importe quoi. Donc, nous, on livre un site standard. Est-ce que le client a acheté la formation pour les contributeurs? Pas forcément. On lui a proposé, il l'a pas forcément acheté. Donc, des fois, on voit des sites qui se dégradent, qui sont plus standards. On ne peut pas y faire grand-chose, en fait. D'autant plus si il y a des contributeurs qui sont des spécialistes. Et tout ça, c'est inévitable que le site se dégrade après la livraison. Sauf les sites que nous entretenons nous-mêmes. Et je pense qu'il y aura un gros progrès à faire du côté des CMS. Alors, les CMS, ce sont des interfaces web et tout ça qui sont assez mal foutues, qui ne marchent pas dans tous les environnements, chez JavaScript et tout ça. C'est assez lourd souvent. Et puis, ça ne nous empêche pas de faire. Donc peut-être que l'avenir est plus dans des clients, pour éditer des blogs, des clients XML, RPC, tout ça. Enfin, des interfaces qui sont plus riches et avec plus de fonctionnalités, qui soient sur le poste, plutôt que d'aller sur une interface web qui sera forcément toujours limitée. Mais ça n'empêche pas, même avec le meilleur outil du monde, avec des outils plus performants qu'un formulaire web, ça n'empêche pas qu'il y aura toujours un volet formation qui sera sur une sensibilisation à la qualité.
J'ai une remarque et une question. La remarque, c'est par rapport aux acheteurs. Ouais. Donc moi, je travaille à La Massif, dans une entité qui s'appelle la direction internet de La Massif, et qui n'est ni rattachée au marketing, ni à la communication, ni à l'informatique. Ça, c'était juste pour...
Vous êtes rattaché à personne.
Voilà. C'était juste pour vous donner une piste. Hein. C'est très rare. Parce qu'on peut éventuellement, des profils comme nous peuvent avoir besoin de s'appuyer sur des agences. Donc c'est peut-être dommage de vous priver de ça. Concernant les CMS, moi j'ai entendu parler qu'il y avait une possibilité de paramétrer des CMS pour éviter justement de tomber dans ce travers. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe réellement ou est-ce que c'est un argument de vente d'un éditeur ou d'un intégrateur?
Écoutez, si quelqu'un les connaît dans la salle, je veux bien qu'il me les donne les noms.
On m'a présenté Jaya et couplé, je crois, avec FCK Editor, où il était possible de le paramétrer suffisamment pour valider le code qui allait sortir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on m'a montré, mais est-ce que c'est vrai?
Je connais pas cet exemple précis, mais dans la vie courante, les utilisateurs lambda sont toujours très créatifs pour foutre le bordel. Et trouver le truc, vraiment, on pensait vraiment pas qu'ils allaient faire ça. Bah, ils arrivent souvent à le faire, à trouver la faille, hein. Dans la pratique, je connais pas. Alors, il y a des systèmes meilleurs que d'autres, mais dans la pratique, j'en connais pas. Un système qui vraiment produirait du code conforme, quoi que fasse l'utilisateur. Parce que affecter un gras à un vide, par exemple, et puis, tous les trucs standards permettent de faire une superposition, une balise, tout ça.
Oui, bonjour, Billy Mansard, Easy Concept. En fait, j'ai relevé dans vos propos une ambiguïté, c'est que le standard aide à vendre, mais il faut surtout pas dire que c'est un standard pour le vendre. Et en fait, c'est quelque chose que je constate aussi sur le terrain dans un pays limitrophe, la Belgique. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et même dans d'autres domaines commerciaux, c'est quelque chose qui se vérifie, quoi, mais c'est quand même dingue.
Non, mais je vois pas l'ambiguïté pour ma part. Je dis simplement que j'ai un public auquel les standards du web, par les normes et tout ça, ça leur parle pas directement. Il faut leur vendre les bénéfices. Alors, on en parle rapidement, hein, mais on s'étend pas sur le sujet, c'est pas les standards que je veux leur vendre. Je vais leur vendre des fonctionnalités. Je vais leur dire, il sera très difficile de décliner sur un PDA, par exemple, leur site web. Ça les séduit toujours, hein, la déclinaison sur le PDA. Après, quand on fait le projet, ils ont complètement oublié et qui navigue sur un PDA, franchement, personne. Mais voilà, ça fait briller leurs yeux et ils achètent. Moi, j'ai aussi le rôle de vendre, hein, alors quelquefois, mes arguments peuvent être un peu spécieux. Voilà. Donc, mais les standards en tant que tels, non, vraiment, j'ai pas vendre ça. Je le vendrai à des confrères techniques, d'autres développeurs, des gens qui travaillent dans le métier. Je leur vendrai les standards en tant que tels. Mais à un client qui est en direction de marketing, je peux lui vendre que les bénéfices des standards.
Oui, bonjour. Désolé, hein, moi je fais partie de la communication et du marketing justement. Et donc, je trouve ça vraiment très dommage votre discours. Parce que, comment vous voulez, vous dites d'un côté, ben, les clients sont de mieux en mieux éduqués, mais en même temps, vous méprisez les gens qui sont vos interlocuteurs, en disant de toute façon, ça ne les concerne pas, ils ne comprennent rien, voilà, il faut leur vendre des belles images, des beaux. Comment voulez-vous qu'on s'éduque parce que moi, ça m'intéresserait, je suis venue là parce que je ne connaissais rien, effectivement, et les agences avec qui je travaille ne m'ont jamais parlé d'accessibilité. Donc, de moi-même, j'ai reçu, je sais pas comment, une publicité de Paris Web, et je me suis dit, tiens, je sais pas comment c'est dans ma boîte. Je me suis dit, tiens, je vais voir ce que c'est. Et je trouve ça dommage que vous méprisiez ça, parce que je pense que peut-être, ça pourrait intéresser aussi des gens de la com, du marketing, de savoir qu'on fait des sites standards et qu'on, enfin, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est... Oui, non, alors, déjà, premier point, je ne méprise pas mes clients. Je peux pas me le permettre. Deuxième point qui est important, c'est que là, c'est le reflet de mon expérience courante. Donc, il est clair, quand on vend un site web avec ce qu'on appelle une recommandation, et donc, moi, j'ai une recommandation type, hein, je ne la réécris pas pour tous les clients et tout ça, donc je pioche, hein, j'ai plein de chapitres, j'ai un chapitre accessibilité, j'ai plein de chapitres comme ça, je les colle dans ma reco. Ça cautionne, on est dans les bonnes pratiques, une démarche qualité et tout ça. Si le client s'intéresse, si c'est vous par exemple, et vous me dites « Ah, l'accessibilité, on n'en a jamais parlé », j'aurais beaucoup de plaisir à vous en parler, vraiment, sincèrement. Dans mon expérience, voilà, 9 fois sur 10, on passe le sujet. J'ai pas un rôle d'apôtre, moi, j'ai un rôle de vous vendre un site web, de faire du chiffre d'affaires. Je suis pas un missionnaire. Enfin, je suis un missionnaire quelque part, parce que je vais vous fourguer de toute façon un site standard. Parce que c'est comme ça que je vois la qualité web, et je l'imagine plus du tout autrement. Et j'ai envie de faire... Pardon ?
C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait à ses clients. Peut-être votre agence, c'est pas...
Je vends la qualité web, et c'est complet la qualité web. Comme je le disais, il faut avoir c'est un concept global. Un site magnifiquement réalisé techniquement, avec des textes de merde qui sont lisibles et truffés de fautes, c'est pas un site de qualité, c'est un concept global qui doit être à tous les postes. C'est ça que je vends aux clients.
J'aimerais savoir un peu dans la salle qui est-ce qui a plutôt un profil marketing, parce que je pense que vous êtes pas très nombreux.
Et bienvenue.
Voilà, bienvenue. Et je pense que c'est super important effectivement que vous soyez là et que petit à petit ça se développe dans votre secteur d'activité. En toute sincérité.
Moi aussi. Hein. Moi aussi,
j'ai un profil marketing. Oui, mais c'est une tendance qui est en train d'évoluer. Et justement, si on organise des conférences comme ça aujourd'hui, c'est pour que ça évolue dans les différentes professions. Merci en tout cas d'avoir posé les questions.
Bonjour. Alors, je vais essayer de mettre tout le monde d'accord. Je m'appelle Arnaud Aquin. Je dirige aujourd'hui le département interactif d'une agence de communication. Donc, on fait le même métier.
OK.
Et il se trouve que j'ai été directeur marketing d'une banque populaire. C'est un qualificatif, hein, c'est pas une marque. Donc, en fait, j'ai vécu ce qu'a vécu madame et je vis aujourd'hui ce que vit monsieur. Donc, je pense que tout est question de contexte. Quand on est dans une grande entreprise, une grande banque, et qu'on a en charge de la communication globale et du marketing, on peut pas non plus être à la pointe de tout et connaître tout sur le web, sur le print et sur les problématiques de marque. Effectivement, bon, l'agence peut apporter des choses, mais comme vous, aujourd'hui, avec les personnes que vous avez décrites, on vit exactement ce que vous vivez, avec des gens qui veulent aller à l'essentiel et qui pour eux, en fait, cette notion d'accessibilité paraît accessoire. Donc, je pense que dans l'avenir, elle va émerger de plus en plus et que ça va évoluer. Mais tout est question de contexte, en fait. Je pense sur le fond, vous êtes d'accord. Et une direction informatique a aussi ses propres contraintes. Dans une grande structure, il y a toujours cette notion d'immobilité qui émerge et le changement est toujours difficile à venir. Je pense que cela se fait progressivement et si vos clients vous sont fidèles et je pense qu'à force de relations avec l'agence, ça peut venir et la complicité entre l'agence et l'annonceur fait qu'il y a des choses qui paraissaient accessoires qui vont émerger et devenir essentielles plus facilement par cette proximité relationnelle.
Si vous le dites. Hein. Enfin, je dirais juste un truc. Hein. Voilà, on leur fait des sites un peu accessibles. On n'y passe pas non plus un temps. Hein. On tombe pas non plus. Voilà, on n'a pas été payé pour ça. On fait des sites de qualité. Mais si on n'a pas eu un budget spécifique accessibilité, on ne va pas y passer un siècle non plus. On fait un service minimum qualité. On ne peut pas tomber dans la surqualité parce que c'est du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc, on doit maintenir nos marques. Mais bon, l'exemple le plus flagrant, c'est le client. Il y a un article sur l'accessibilité dans je ne sais quel journal qu'il a lu, et il dit, ah ben oui, c'est vachement important, je n'avais jamais pensé, il me téléphone, il dit, ah ben voilà, ce serait bien de se soucier de l'accessibilité de notre site. J'ai dit, bah, il est déjà accessible votre site. Et c'est là qu'on bâtit une relation stable et pérenne avec le client, et on a anticipé ses besoins.
Mais je voulais juste donner un détail à madame. Moi, j'ai une triple casquette. C'est assez affolant. Je dois être peut-être un des rares dans la salle. Je suis développeur d'un logiciel d'édition HTML, XHTML. Je suis chef d'entreprise. J'ai été attaché à la direction de la communication d'EDF pour la mise en place de son web. Et j'ai été directeur technique d'une web agency. Donc, j'ai fait la totale, j'ai vu tout. L'introduction des standards et de la qualité du web dans une très grosse entreprise en général est le fait de personne. C'est pas le fait de l'organisation. Vous avez des personnes qui vont être sensibilisées à ça et qui vont l'amener. Si cette personne s'en va, ça disparaît. Exemple, EDF avait fait un site à peu près propre lorsqu'il y a eu la grande vague du web en 96. Sur le même cadre de cohérence, 2 ans plus tard, GDF a fait un truc épouvantable. C'est vraiment des personnes. Et globalement, Laurent a entièrement raison. Quand vous contactez une DIRCOM de grosse taille comme ça, celles-là peuvent l'être, les standards, ils s'en foutent. Complètement. C'est totalement secondaire. La seule chose qui compte, c'est la com.
Merci. Sauf dans une grande entreprise qui est notre partenaire. Bon, blague à part, nous voilà rendus au bout de 50 minutes. Merci beaucoup, Laurent. Bravo. Alors, restez à votre place.